Bonjour, bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes. Attention, je vais tousser. Excusez-moi. Une émission consacrée à la musique de film, à cet art si spectaculaire qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale pertinente ou un peu moins les petites images qui bougent sur les grands écrans et ailleurs. Je vous rappellerai aussi que notre générique est bien évidemment une musique de film, ça vous l'avez déjà compris. En l'espèce, celle d'un film de Blake Edwards tourné en 1962, une petite perle, Diamant sur canapé, Audrey Hepburn et George Piper dans les rôles principaux et Henry Mancini. Henry, tu nous manques à la baguette. Ce jour de 24 notes secondes, eh bien nous allons évoluer dans le cinéma américain aussi, mais dans un tout autre genre, puisque nous allons évoquer la carrière de Mel Gibson. Effectivement, un beau gars, peut-être un peu moins, un peu controversé, avec des passages à vide, mais en ce moment, ça va bien pour lui. Mel Gibson est né le 5 janvier 1956, à New York, et oui, j'étais sûr que vous alliez me dire qu'il était australien. Eh ben non, c'est juste que son papa est parti en 1968 en Australie, en partie pour éviter à ses fils, dit ma petite fiche qui ne ment jamais, je vous le rappelle, en partie pour éviter à ses fils un engagement dans la guerre du Vietnam. Il faut dire que des fils, il devait en avoir beaucoup, puisque le petit Mel était le sixième d'une famille de 11 enfants. C'est-à-dire qu'il y a des petits Gibson un peu partout, et lui-même d'ailleurs en a produit aussi. Mel ensuite suit un parcours relativement classique puisqu'il se passionne pour le théâtre dès ses années d'études et ensuite il commence au théâtre, il ne faut pas l'oublier, alors qu'on l'aura beaucoup brocardé ensuite pour des rôles peut-être pas toujours très intellectuels, mais on vit l'homme dans Oedipe Roi, on le vit dans Henri VI, on le vit dans des pièces contemporaines de Brendan Behan ou ce genre de choses. Bref, on le vit dans beaucoup de pièces avant que en 1979, eh bien, sa carrière prenne un tout autre angle, puisque cette année-là, Mel fut Mad Max. Et oui, le premier opus d'une saga qui se fera de ma part en compte désormais 4. Un film de George Miller tourné en 1979 que rien ne prédestinait à un très très grand succès, puisqu'il avait eu beaucoup d'ennuis en Australie pour son financement, aux États-Unis pour sa censure, mais ma foi, maintenant, près de 30 et quelques années après, 40 même années après, 40 ans, mais qui croirait ça ? 40 ans après, eh bien, Mad Max et ses suites sont entrés dans la légende, puisque le film tourné en 1979 eut deux suites, une tournée en 1982 et une autre tournée en 1985. Et puis de récemment, on a vu Mad Max Fury Road avec un autre Mad Max. On s'était dit, oh bon, finalement, eh ben c'était super génial. Et c'était toujours sous la direction de George Miller. Comme quoi, on peut vieillir en se bonifiant. Prenez-moi, par exemple. Allez, on va écouter un extrait de la bande originale de Mad Max 3. Puisque j'ai pas trouvé les bandes originales des deux autres, mais ma foi, c'est pas grave, puisqu'elle est signée de Maurice Jarre lui-même, qu'on n'aurait pas forcément vu dans ce genre de film, et on l'écoute maintenant dans 24 notes secondes. un extrait de la bande originale de Mad Max 3, une musique de Maurice Jarre pour un film de George Miller. Alors on m'a demandé pendant la pause, mais ça parle de quoi Mad Max? Mais vraiment, il y a des gens qui ne savent pas de quoi ça parle Mad Max. Eh bien en fait, ça se passe dans un monde post-apocalyptique où tout le monde est retourné à la barbarie et sur de grandes routes interurbaines, des gangs de motards nomades s'affrontent. Bref. Montpellier, un samedi soir. Ça n'a rien de très original et c'est plus vraiment de la science-fiction maintenant. Bref, grâce à ce film, eh bien, Mel Gibson réussit immédiatement à accéder à une célébrité qu'il sut, ma foi, en tout cas, à ses débuts, exploiter de manière fort convenable, puisque au lieu de se spécialiser, ma foi, en tout cas, à ses débuts, dans les films d'action, eh bien, dès l'année suivante, il tourna sous la direction d'un autre réalisateur australien, peut-être un peu oublié maintenant, pourtant l'homme fut entre autres le réalisateur du Witness d'Harrison Ford, avec Harrison Ford. En tout cas, là encore une musique de Maurice Jarre qui est certainement dans toutes les mémoires. Il s'agit de Peter Weir, avec lequel, tout en tournant Mad Max 2 en 1981, eh bien, Mel Gibson tourne un film intitulé Gallipoli qui raconte un épisode, sauf erreur de ma part, de la Première Guerre mondiale impliquant des troupes australiennes joyeusement massacrées. Et l'année suivante, eh bien, les mêmes, Mel Gibson et Peter Weir, se retrouvèrent avec Maurice Jarre à nouveau, que nous allons donc entendre à nouveau, pour un nouveau film qui cette fois se passait dans une ambiance très différente puisqu'on y voyait Mel Gibson dans le rôle d'un brillant journaliste australien arrivant en 1965 dans l'Indonésie du président Sukarno, une Indonésie qui s'apprête à basculer dans une forme de guerre civile. Aux côtés de Mel Gibson, eh bien, on retrouvait d'une part Sigourney Weaver, ce qui est toujours fort agréable, ce qui n'a pas dû être facile pour Mel parce qu'elle est quand même un petit peu plus grande que lui et on le sait, les acteurs détestent les actrices qui sont plus grandes qu'eux. Et puis surtout, on y retrouvait, alors ça c'était une curiosité, une jeune femme depuis qui a fait une modeste carrière, Linda Hunt, qui jouait le rôle d'un jeune homme. C'était assez étonnant, mais ça marchait fondamentalement car la dame que j'ai en photo sous les yeux à califourchon sur les épaules de Mel Gibson, mon Dieu, qu'il est beau à cette époque, eh bien, la dame, ma foi, peut passer pour un homme, au moins dans certaines circonstances. Bref, ne nous attendons pas. Écoutons un extrait de cette bande originale, à nouveau signé Maurice Jarre, L'année de tous les dangers, ça s'appelait en français, et en anglais, c'était bien plus joli, ça s'appelait The Year of Living Dangerously. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, même dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà, on le coupe un peu avant la fin. Maurice Jarre, qui n'est plus là, nous en excusera. Il y avait des instruments indonésiens dans le tas. En tout cas, j'imagine un extrait de la bande originale de L'année de tous les dangers. Une petite merveille, j'ai oublié de le dire. Une petite merveille de Peter Weir, tournée en 1983, que je vous invite à découvrir sur votre site de piratage préféré. On va rester donc avec Mel Gibson, qui en 1984 connaît un tournant dans sa carrière, puisque c'était cette année-là qu'il rejoint sa terre natale, vous l'avez compris, les États-Unis, où il commence une carrière de star internationale. On le voit notamment cette même année 84 dans le Bounty, un remake des Révoltés du Bounty, où il est aux côtés de Anthony Hopkins, pardonnez-moi, et il commence donc une carrière internationale avec à nouveau une saga. Il y a eu 3 épisodes de Mad Max, et bien il y en aura 4 de Lethal Weapon de Richard Donner, L'Arme Fatale en français, tournée en 1987, où Mel Gibson joue le rôle, en tout cas dans le premier opus, d'un flic suicidaire. Alors le genre buddy movie, c'est-à-dire qu'il y a un blanc, un noir, un blanc suicidaire et un noir bien dans sa peau, ma foi, ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien sous la direction de ce vieux routier de Richard Donner. Alors je voudrais quand même citer le noir, qui n'est pas que noir, qui est aussi un excellent acteur et puis un homme qui fait beaucoup justement pour la cause des noirs aux États-Unis, Danny Glover. Danny Glover et Mel Gibson, donc, qui cette année-là, touchent le bingo, puisque L'Arme Fatale, le petit film d'action plutôt bien troussé, mais qui n'a rien de particulièrement original, à part le côté suicidaire de Mel Gibson, gagne énormément d'argent. Du coup, une suite, du coup, deux suites, du coup, trois suites. Et oui, n'en jetez plus. Et c'est de cette quatrième suite, je ne sais pas trouver non plus les musiques de Michael Cameron, c'est dommage, c'est de cette quatrième suite, ça s'appelait donc L'Arme Fatale 4, mais vous savez que vous progressez, donc c'est de cette quatrième suite que nous allons écouter un extrait. Alors, ma foi, ça va être un peu bizarre, c'est Bob Dylan en reggae. Allez, je vous laisse découvrir dans 24 notes, seconde.
Off of me, I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Take these guns off of me. I just can't shoot them anymore. There's a long black cloud following me. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock. Knock, knock, knocking on heaven's door. 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 Thank you.
Knocking on Heaven's Door en version reggae. Bah, je vous avais prévenu un peu, un extrait de la bande originale de L'Arme Fatale 4, un film qui mettait à nouveau en vedette Mel Gibson, qui ne s'était donc pas suicidé dans le premier épisode de L'Arme Fatale. En même temps, on n'y croyait pas vraiment. Donc, un film qui lui apporta encore beaucoup d'argent dans les années 90, où, comment dire, disons que ses choix cinématographiques furent un peu moins ambitieux que dans la précédente décennie, desquels on peut retenir eh bien, essentiellement les films qu'il aura réalisés, puisque en 1993, Mel Gibson passe de l'autre côté de la caméra pour tourner son premier film, dont il est aussi l'acteur principal, il ne faut quand même pas exagérer. Ça s'appelle L'homme sans visage, The Man Without a Face, une sorte de mélodrame plutôt bienvenu. Ensuite, eh bien, pour, en tout cas pour l'instant, l'homme a tourné 4 films. En 2004, on verra La Passion du Christ, un film ô combien controversé, sanglant et controversé, et puis qui a rapporté beaucoup d'argent, donc ni sanglant ni controversé. En 2006, on verra Apocalypto, encore plus sanglant que le précédent. Et en 2016, on verra, plutôt moi je ne l'ai pas vu, Tu ne tueras point. Donc avec un titre pareil, ça doit être encore plus sanglant que les précédents. Mais en tout cas, le film qui remit Mel en selle et qui a rencontré à la fois un gros succès commercial et quelques nominations aux Golden Globes et aux Oscars. Mais, j'ai mis de côté eh bien, le film certainement le plus connu de Mel Gibson en 1995, l'histoire d'une révolte écossaise avec comme producteur Mel Gibson, comme scénariste Mel Gibson, comme réalisateur Mel Gibson. Et dans le rôle principal, il y avait Mel Gibson, mais comme quoi vous vraiment vous progressez dans cette émission de ce jour. Mel Gibson pour un film qui s'appelait Braveheart, mais vous l'avez bien sûr deviné, et qui lui permet cette année-là eh bien, de remporter, excusez du peu, l'Oscar du meilleur film et celui du meilleur réalisateur. Mais, en tout cas pour ce qui nous concerne, ce film nous intéresse tout particulièrement puisqu'on y voyait surtout aux côtés de Mel Gibson, Sophie. Eh oui, notre Sophie Marceau nationale, mon petit cœur en tremble aux côtés de Mel Gibson. Elle était absolument... Enfin, c'était Sophie, quoi. Allez, on va écouter un extrait de la bande originale de ce film spécial dédicace pour Bruno. Il comprendra une musique de James Horner, Braveheart, de et avec, etc. Mel Gibson. Il me semble que cette année-là, 1995, la musique aussi obtint un Oscar, un extrait de la bande originale de Braveheart, une musique de James Horner, un film de Mel Gibson. Mel Gibson auquel nous consacrions, eh ben oui, c'est déjà presque fini, cette émission de 24 notes secondes. L'homme a aujourd'hui 60 ans, et ma foi, il a encore beaucoup de carrière devant lui, puisque comme je l'ai dit, il est remis en selle avec le succès de Thune tuera point. Et puis, il faut encore qu'il fasse quelques petites choses, puisqu'il n'a que 9 enfants, alors que ses parents en ont eu 11, je vous le rappelle. Il n'a que 60 ans après tout. Bien entendu, je plaisante. Il faut dire aussi qu'il a une petite fortune de quelques centaines de millions de dollars qui peuvent aussi lui permettre d'arrondir les angles. Et bien, on va se quitter évidemment avec une bande originale d'un film dans les années 2000. Là encore, on ne peut pas dire que les choix de Mel étaient toujours très judicieux. On pourra aussi extraire dans les années 2010 sa participation à Expendables 3. Ben oui, on est des garçons, donc on peut extraire sa participation à Expendables 3. Néanmoins, ce n'est pas sous la musique, entre guillemets, d'Expendables 3 que nous allons nous quitter, mais avec un extrait de la bande originale de Signs, signe en français, tourné en 2002 par M. Night Shyamalan. Rien que son nom, déjà, ça le fait. Un film, évidemment, très très bien, comme beaucoup des films de M. Night Shyamalan, quand il n'a pas trop d'argent. Quand il a trop d'argent, il fait des mauvais films. Quand il n'a pas trop d'argent, il fait des bons films. Ce serait tout comme moi. Voilà, ça s'appelait Signs. La musique, elle est de James Newton Howard. Et on se laisse là-dessus dans 24 autres secondes. Attention derrière toi. Voilà, 24 notes secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, salut, bye bye.